En 2019, le groupe Epic Games dévoilait l'initiative Mega Grants, soit le financement à hauteur de 100 millions de dollars de projets créatifs. L'idée derrière cet investissement, utiliser les possibilités de la 3D temps réel pour alimenter la créativité, libérer les potentiels et faire tomber les barrières entre différents secteurs et métiers, le jeu vidéo, la tech, l'éducation ou encore le cinéma, et notamment le cinéma d'animation. Quand on est un producteur de séries animées, que peut-on faire avec une opportunité pareille? Quelles sont les innovations possibles dans les contenus et les métiers de l'animation? C'est quoi les barrières à faire tomber? Bienvenue dans ce 14e épisode des Causeries de la Plaine. Je suis Laurent Tricard, directeur de l'innovation et des partenariats de la Plaine Image, et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette causerie deux collaborateurs de Cybergroup Studio, Olivier Lelardoux, directeur général des studios et producteur associé, et Andreas Carlen, directeur technique. Bonjour messieurs, comment allez-vous ?
Bonjour Laurent, ça va très bien.
Bonjour.
Alors, peut-être démarrons par Cybergroup, peut-être présenter ce studio, ce producteur de séries animées.
Alors rapidement, Cybergroup, c'est un producteur de dessins animés, mais plus que ça, on développe des marques jeunesse. Donc on est producteur, c'est-à-dire qu'on crée nos propres propriétés intellectuelles, on crée nos concepts, on les développe, on les fabrique sur nos deux sites en France, un qui est à Paris, dans le 10e arrondissement, proche de la place de la République, il y a à peu près 120 personnes hors période du Covid, et bien sûr ici à Roubaix, qui est notre superbe studio et qui à peu près regroupe jusque maintenant entre 30 et 40 personnes, hors période Covid bien sûr, et qui se voit aussi être un peu notre fer de lance en termes de nouvelles technologies, on va en parler. On a aussi un bureau à Los Angeles avec une équipe américaine qui s'occupe de développement et de vente aussi sur le territoire américain de nos séries. On est donc vraiment sur tout, j'irais, les aspects de la production audiovisuelle et l'exploitation de marques jeunesse. C'est-à-dire qu'on crée les séries, on les exploite aussi en termes de merchandising, de licences. Ça va aussi jusqu'aux jeux vidéo. Par exemple, l'année dernière, on a sorti un jeu vidéo sur issu de l'univers Gigantosaurus, qui est sorti sur toutes les plateformes, les grosses consoles de type Xbox, PlayStation, etc. Il y en a un autre là qui sort sur la propriété Zorro. Et bien sûr, la distribution, qui est un énorme département chez nous. Nous sommes un des plus gros distributeurs européens et donc c'est vraiment un département très important. Voilà, on couvre tout.
Alors là, c'est Olivier qui parle.
Oui, tout à fait.
Et Cyber est né en 2005.
Exactement, oui. Donc, il y a un peu plus de 15 ans.
Un peu plus de 15 ans.
Exactement.
Alors, dans cette introduction, j'évoquais ces méga grants de Epic Games. Donc, est-ce que Andreas, Olivier, vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement, ce qu'a été ce... On parle de quoi? On parle d'appel à projet?
Oui, on reste sur dire.
Oui, c'est donc Epic Games qui en fonds, une sorte de fonds d'investissement, 200 millions de dollars pour investir dans des projets innovants, un peu high-tech, qui utilisent le temps réel, le moteur de Unreal Engine pour réaliser des programmes originaux, des technologies originales et des jeux aussi. Mais ce n'est pas que limité au gaming, c'est vraiment au sens large de l'utilisation de Unreal Engine comme moteur temps réel pour diverses applications dans différentes industries.
Parce que c'est effectivement le mouvement qui est en cours, c'est que la 3D temps réel est en train d'envahir nombre de secteurs. On peut parler de l'architecture, le secteur de la mobilité, donc automobile, ferroviaire, etc.
C'est une maturation et une révolution un peu du temps réel et qui prend enfin une place vraiment très très importante dans la société, dans son sens large,
en fait. Alors ça, c'est Andreas qui parle, et j'aime bien son « enfin ». Peut-être qu'on aura le temps d'expliquer pourquoi, pour quelqu'un comme toi, c'est quelque chose qui arrive enfin. Juste une dernière chose sur Epic, c'est vrai que c'est une boîte qui est un peu particulière, puisqu'on les connaît pour nombre de leurs jeux. Il y a le pendant technologique Unreal Engine, et c'est vrai que c'est une boîte créative qui a été fondée par Tim Sweeney, qui est un passionné aussi de technologie.
Oui. C'est quelqu'un qui a une passion pour le computer graphics, pour l'imagerie. Et c'est ça qui est à la base, je pense, de son développement.
Oui, c'est pas qu'un businessman, c'est un peu le Elon Musk du jeu vidéo. C'est un ingénieur, c'est un scientifique. Il continue à être extrêmement investi dans la technologie et dans le développement d'Unreal. Donc, c'est pas le businessman qui brasse des milliards en bourse. Hein. C'est bien plus que ça. C'est un vrai ingénieur, un vrai passionné. Et avec une philosophie aussi qu'il a su maintenir ces 30 dernières années. Parce que Unreal existe depuis 30 ans en réalité. Et avec une certaine philosophie derrière, en fait. Hein. Le sens du partage aussi, de la communauté est très importante chez Epic. On parlait du Mega Grant. Dans les conditions du Mega Grant, il y avait bien sûr le projet, le projet qu'on avait, la façon dont on allait, un peu hacker, on va dire, Unreal pour l'appliquer dans notre industrie. Mais il y avait aussi tout l'état d'esprit derrière, notamment sur l'aspect open source. C'était très important pour Epic, sur l'aspect éducation. Quels étaient nos plans pour l'éducation, la formation auprès des jeunes, etc. Donc tout ça, la transmission de la formation, le partage de la formation, c'est essentiel pour Epic. Et c'est vraiment leur business model, finalement.
Alors, le Mega Grant, on peut parler de subvention quasiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coproduction, ils ne rentrent pas en coproduction, il n'y a pas d'equity. On vous aide à financer un projet. Et la contrepartie, c'est notamment l'open source. Vous devez documenter ce que vous allez faire avec leurs outils.
En fait, ils le font vraiment sans pression particulière sur aucun point. En plus, ils le font vraiment dans une confiance totale, donc c'est assez remarquable. Il n'y a pas beaucoup de comptes à rendre en réalité, mais comme on est quand même trié sur le volet, ils savent très bien que les gens qui reçoivent les Mega Grants sont vraiment embarqués dans cet esprit de partage, d'open source, etc. Donc c'est un ADN commun finalement. Donc oui, effectivement, il y a tout ça est embarqué dans le projet Mega Grants. Et il n'y a pas de compartie, ils sont ni en coproduction, il n'y a pas de partage de copyright, et on ne va pas rembourser, ce n'est pas une subvention qui rembourse ça, c'est une subvention qui est vraiment donnée pour le développement.
Quand vous voyez l'appel à projet en 2019, pour vous c'est évident, il faut y aller, parce que vous avez déjà des idées en tête?
Oui, absolument. Alors, je vais laisser aussi Andreas en dire un mot, mais en fait, l'idée n'est pas partie de la technologie. En fait, en tant que réalisateur, parce que je réalise la série Gigantosaurus pour Disney, là, notamment aux US, et nous développons des marques, l'idée c'était de faire vivre Gigantosaurus sur d'autres médias, sur d'autres plateformes, et notamment les réseaux sociaux, etc. Et là, quand on commence à faire des calculs, les méthodes de production et le pipeline de production qui est mis en place pour la série mère, c'est celle qu'on livre à Disney+, là, et Netflix, et France Télévisions, etc., elle coûte très cher. C'est-à-dire que c'est des milliers d'euros par minute. Et donc, cette économie-là, ce pipeline-là, est très qualitatif visuellement, mais ne fonctionne pas avec l'économie du digital. Donc, il a fallu réfléchir à comment imaginer un projet autour de Gigantosaurus appliqué au digital dans une économie qu'on peut se permettre. Et c'est là où, en discutant avec Andreas, qui a un long, long background dans le temps réel, on a commencé à regarder les différentes options. On a découvert, moi j'ai découvert Unreal par Andreas qui connaissait déjà, et là je suis tombé sur le Mega Grants, donc une sorte d'alignement de planètes qui fait qu'on leur a expliqué le projet et ils ont été tout de suite emballés.
Oui, c'était ça. On était en plein Covid, hein, et on était sur une réflexion globale sur qu'est-ce qu'on va faire, comment l'avenir va se présenter. Et on a eu la chance de concourir et de gagner ce prestigieux prix quasiment de Mega Grants qui mélange un projet qui est vraiment axé 50% pour moi, hein, c'est 50% créatif, artistique avec la technique. Donc c'est tout ça qui est intéressant, c'est de mélanger les aspects créatifs avec les aspects techniques et de tirer la meilleure partie de la technologie au service de l'histoire.
Alors si on rentre dans la matrice, qu'est-ce que ces outils Unreal vous apportent de nouveau Voilà. C'est quoi l'innovation qu'il y a derrière pour vous? Qu'est-ce que ça change en termes, encore une fois, de pipeline de production et puis peut-être de métier?
C'est assez énorme et c'est assez global. L'axe central pour moi, c'est le temps réel et la qualité photoréaliste temps réel et tout le pipeline et le savoir-faire de Epic Games de 30 ans réunis dans un sort de package qui universalise la production 3D temps réel et qui le rend accessible à tout le monde.
Oui, c'est au début, on a abordé le sujet pour des raisons un peu économiques, comment faire pour aller plus vite. Donc le temps réel, voilà, comme son nom l'indique, ça va plus vite, c'est instantané. Donc du coup, on se dit qu'on va peut-être faire des économies. Et puis finalement, une fois qu'on a mis notre nez dedans, on s'est aperçu qu'il y a aussi un gain qualitatif très important parce que c'est une technologie qui est arrivée à maturation. Et quand vous regardez les jeux AAA, sur les consoles next-gen ou même une PS4, la qualité des graphismes des jeux vidéo sont pour la plupart, en tout cas pour les gros jeux, bien supérieurs à ce que proposent la plupart des séries 3D télé, audiovisuelles. Donc il y avait quand même une évidence qui se montrait, en fait, qui se présentait sous nos yeux, et l'idée c'est de savoir comment ces sociétés de jeux vidéo arrivaient à ce niveau de qualité en temps réel, alors que nous, on était encore avec nos heures de rendu pour finalement des compromis visuels qu'eux ne semblaient pas avoir dans le jeu vidéo. Donc il a fallu se repenser complètement. Je peux vous dire que Unreal, ça n'a strictement rien à voir avec tous les pipelines traditionnels qu'on peut connaître depuis des décennies dans l'animation, même jusqu'au vocabulaire. C'est-à-dire que le vocabulaire même change. L'approche, la philosophie du logiciel n'a rien à voir. Donc il faut réinventer son métier. Je ne dis pas qu'il faut faire table rase, l'expérience dans l'animation, notamment dans la technique 3D, sert, mais il faut de longs mois quand même pour appréhender la technologie, la philosophie en fait de ces logiciels qui n'ont rien à voir, et le vocabulaire, parce que les techniques n'ont pas les mêmes mots en fait.
Et la manière dont vous intégrez ça ici à Roubaix, ce que vous mettez en place, c'est un studio qui est un studio de motion capture. Donc, est-ce qu'on peut expliquer comment ça se passe?
Je vais laisser Andreas parler de la technique, mais moi je peux dire en introduction en deux mots. C'est vrai que souvent la confusion quand on dit animation temps réel, les gens sont très confus entre les mouvements de l'animation en temps réel et l'affichage de la 3D en temps réel. Donc Unreal, c'est un logiciel de 3D temps réel pour l'affichage de la 3D en temps réel, mais ne fait pas d'animation. Aujourd'hui, on fait du keyframe de façon tout à fait classique dans Unreal, et donc l'animation n'est pas temps réel. Par contre, l'affichage de la 3D est en temps réel. Donc ça, c'est un point. Oui. Ensuite, pour l'animation temps réel, effectivement, dans ce cas-là, c'est la motion capture. Et il se trouve que la motion capture a aussi subi sa petite révolution ces deux dernières années, notamment avec l'arrivée de technologies électromagnétiques versus les technologies entièrement optiques qu'on avait jusque maintenant, qui sont assez lourdes, chères, compliqué à mettre en place. Il y a une société qui s'appelle Xsense qui fait un carton dans le monde entier, même à Hollywood, avec de nouvelles combinaisons de motion capture très légères qui peuvent fonctionner n'importe où. On a profité de cette révolution dans la motion capture. On a réussi à l'intégrer dans Unreal pour avoir effectivement un pipeline temps réel qui part de l'animation jusqu'à au rendu final, à l'affichage final. Voilà.
Oui, motion capture, c'est vraiment intéressant, ces évolutions. Pour moi, le motion capture, c'est un peu, on utilise pour augmenter le keyframe. Donc, on pourrait dire que c'est du keyframe assisté. Moi, j'aime beaucoup le terme performance capture parce que c'est vraiment prendre la performance et l'appliquer sur un personnage. Oui, donc il y a beaucoup moins de retouches à faire. Et pour répondre à votre question, sur Roubaix, c'est vraiment un nouveau pipeline qui se construit sur le savoir-faire traditionnel. Donc, on augmente le savoir-faire et les process traditionnels avec ces nouveaux méthodes qui nous permettent peut-être de centraliser un peu plus, de faire plus, un peu moins de bascule entre les logiciels et d'économiser vraiment fortement sur la visualisation temps réel de chaque étape de production et vraiment de pouvoir compresser et factoriser plusieurs étapes.
Alors, on comprend qu'il y a, un, il y a un, il y a un gain de coût. Voilà, la prod va plus vite. Si on aborde le côté qualitatif, qu'est-ce que ça change? À quel endroit il y a des choses qui sont bouleversées?
La qualité du lighting, le niveau de détail, la densité de l'image est absolument incomparable. Vous voyez bien, encore une fois, aller acheter une PlayStation, regarder les jeux, il y a 60 ou 90 images par seconde dans une densité, une qualité d'ambiance, de détails, l'herbe, voilà, tous les détails de quasiment photoréalistes permettent en fait d'avoir une approche complètement différente dans le visuel, je dirais, des séries télé. Donc l'idée, c'est justement de profiter de ces technologies pour densifier l'image, mais pas juste pour la densifier, pour amener plus de crédibilité dans l'univers qu'on propose aux enfants, qui, il faut quand même le dire, les enfants aujourd'hui qui ont entre 7 et 12 ans grandissent avec des PlayStation 4 et des PlayStation 5, donc ils grandissent avec une certaine exigence visuelle qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière après quand on regarde une série d'animation. Donc c'était impératif pour nous d'amener cette densité de l'image. Alors il y a toujours une direction artistique à mettre en place, il y a un millier de styles différents à explorer, mais cette densité en fait d'image à laquelle est habituée maintenant la nouvelle génération d'enfants est accessible à travers ces outils.
Oui, et de pouvoir enrichir l'animation pour que l'animation à la fin, pour moi, c'est ça qui est intéressant, que ce soit plus riche, de combiner des performances d'êtres humains, d'acteurs, de les augmenter avec un peu de keyframe, d'utiliser le mocap un peu comme du rotoscopie et de faire quelque chose de plus riche à la fin. Et avec les nouvelles techniques de rig, on peut faire des rigging dans Unreal pour pouvoir facilement ajuster l'animation après la captation de mouvement, qui sont extrêmement puissantes.
Donc les comédiens mettent la tenue, sont captés. En temps réel, ils peuvent se voir dans la scène, dans le décor.
Oui.
Et donc, ils peuvent améliorer leur performance. Et à la fin, vous avez quasiment le produit final ?
Absolument. C'est-à-dire que sur le plateau, alors ils ont un casque aussi avec un téléphone, un iPhone, hein, je ne vais pas faire de pub, mais c'est un iPhone, c'est comme ça, qui filme leur visage en permanence et capture les différentes positions en fait, des yeux et des différentes parties du visage. C'est retransmis en temps réel à travers le réseau Wi-Fi directement dans Unreal. Et donc, ça contrôle la marionnette 3D en temps réel, comme le fait d'ailleurs la combinaison de motion capture. Tout ça, c'était en simultané. Et effectivement, sur le plateau, il y a trois retours vidéo qui sont trois fenêtres Unreal en temps réel. Donc, les comédiens se voient dans le décor final. Donc, c'est même pas sur un fond gris ou noir, etc. Ils se voient dans le décor final, à l'endroit où est supposé se passer la scène en temps réel. Donc ça donne, du coup, il y a, c'est vrai que eux, dans la vraie vie, ils sont avec ces combinaisons, ce casque, ils sont sur un plateau dans un studio à Roubaix, mais en réalité, ils peuvent s'immerger quand même assez facilement et instantanément dans l'univers qu'ils sont en train de jouer, grâce au moteur 3D temps réel. Alors que jusque maintenant, c'était fait complètement à l'aveugle, et ensuite, ça prenait de longues semaines, voire de longs mois, avant de pouvoir avoir un semblant de résultat. Là, c'est instantané. Donc, c'est vraiment il y a un gain qualitatif aussi à ce niveau-là, parce que les comédiens comprennent beaucoup plus ce qu'ils sont en train de faire et donc sont beaucoup plus précis.
Oui, et les comédiens, ils ont un retour à la fois sur leur body, sur le facial. Donc, on enregistre le body, le facial et l'audio tout en même temps. Donc, on a une passe d'enregistrement où on enregistre ces trois aspects fondamentaux de performance. Et le fait qu'on a tout ça et on a un retour de tous ces éléments en temps réel en même temps, c'est un gain très important.
Alors Olivier, tu expliquais que effectivement au cyber, vous êtes déjà quasiment des généralistes de l'entertainment, en tout cas vous, il n'y a pas que la série animée, vous avez déjà débordé sur le jeu vidéo. Est-ce que là, du coup, l'hybridation dont on parle beaucoup dans le monde de l'entertainment, On a vu par exemple que le monde de la musique avait été un peu bouleversé là aussi par du concert sur Fortnite, donc on en revient à Epic Games. Est-ce que ça va accélérer l'hybridation? Est-ce que ça va vous rendre plus facilement effectivement multimédia, pour employer un terme ancien, multi-support? Voilà, est-ce que c'est ça aussi l'enjeu derrière?
Alors, je pense que c'est le sens de l'histoire. On voit bien, les réseaux sociaux sont aussi de vrais médias maintenant, donc les producteurs aujourd'hui doivent s'adapter à toutes ces plateformes et ils doivent être présents là où est le public finalement. Donc clairement oui. Et vous parlez de Fortnite. Fortnite est en passe de devenir un réseau social pour les jeunes, on va dire, la jeune génération. Qui intègre effectivement, au-delà du jeu, ça intègre des concerts, on l'a vu, avec des dizaines de millions de spectateurs en même temps. Donc ça va, je pense que post-Covid, ça va rester. Il y aura toujours une version digitale du concert et ça va rester. Et il y a aussi, par exemple, récemment, il y a un mois ou deux mois, il y a eu un festival d'animation dans Fortnite qui a, sur un week-end cumulé, qui a reçu 8 millions de spectateurs. Donc il n'y a aucun festival d'animation dans le monde qui a une audience telle. Donc en fait, la digitalisation de notre société est en marche et ça en fait partie. Donc oui, clairement, un producteur comme n'importe quel producteur sur la planète s'intéresse à tous ces modes de narration qui sont en train d'être inventés au fur et à mesure que la technologie avance.
Et Andreas, on le disait, on parle un peu au passé, tiens. Là, on se projette dans le futur, mais on fait un grand pas en arrière. Tu as un background technique, voilà, tu es directeur technique, et tu es passé notamment chez Cryo, donc dans le monde du jeu vidéo, et tu me racontais, quand on préparait ce podcast, cette causerie, qu'il y a 20 ans, tu rêvais un peu de ça, finalement, d'avoir des outils comme ça.
Oui, donc j'étais développeur lead chez Cryo. Enfin, c'était une filiale de Cryo et du groupe Publicis. Et j'avais réalisé le moteur et tout le système et le pipeline et l'enregistrement d'une des premières séries motion capture en France, qui était sur la 5e, qui s'appelait Elastoc. Et c'était vraiment très intéressant. On travaillait sur les Silicon Graphics avec les premières cartes OpenGL. C'était intéressant, mais il manquait cet aspect qualitatif. Donc on voyait le potentiel des technologies, mais le résultat final était un peu comme des images de jeux vidéo, alors que maintenant on est capable de vraiment aller au fond de cette maîtrise qualitative et d'exprimer tout ce qu'on peut imaginer d'exprimer à partir d'un script ou d'un storyboard.
Alors aujourd'hui, c'est Gigantosaurus qui utilise cette technologie. Je pense qu'il y a d'autres projets qui doivent venir derrière. Monster in My Pocket, Alex Player, c'est ça? C'est déjà dans différents pipes de production, du coup?
Oui, alors on a Alex Player notamment, et en plus ça fait sens parce que c'est une série qui est basée dans le monde du e-sport, en développement actuellement avec France Télévisions. Qui devrait rentrer en production cette année, sur la deuxième partie, sur la fin d'année, disons. Et donc là, clairement, oui, Unreal, c'est certain. Il y a des discussions avec les créatifs sur motion capture ou pas motion capture, parce qu'il y a tout de même une notion de style. C'est-à-dire que la motion capture amène un certain style, même si aujourd'hui, nous, on a développé tout un tas de rigs et d'outils de surcouche de la motion capture qui permettent de styliser un maximum les mouvements, etc., pour pas avoir des choses trop réalistes. Mais si une direction artistique l'impose et qu'il faut quelque chose de beaucoup plus keyframe, snappy en termes de style d'animation, tous les outils de rig dans Unreal existent, sont tout à fait efficaces et permettent de le faire. Donc Unreal, c'est un peu une évidence sur toutes les productions 3D qui peuvent exister. Finalement, ça s'applique à toutes les productions 3D, hein, parce que il n'y a pas de... Je dirais que la technologie d'Unreal, même si je pense que c'est pareil avec Unity, n'impose pas un style. Le jeu vidéo a ses propres codes, et donc souvent on se dit « Ah, il y a le look jeu vidéo ». Oui, parce que dans le jeu vidéo, ils ont leur code graphique à eux, et c'est ce qu'ils aiment, et c'est ce qui plaît. Mais on peut très bien utiliser la même technologie pour appliquer d'autres codes graphiques, d'être sur des choses beaucoup plus cartoon. Et donc,
ça n'impose rien, la direction artistique?
Non, la technologie n'impose rien n'influence pas vraiment la direction artistique. C'est ce que nous, on en fait qui l'influence. Donc ça, c'est une chose. Et la motion capture, elle sera plus à la carte dans les prochains projets. Ça sera en fonction du type d'animation, de la pertinence de ce style d'animation appliqué à la production. Quoi. Voilà.
Oui, parce que la clé pour nous, c'est le temps réel.
Exactement.
Ouais. Et la motion capture, c'est accessoire.
Si on prend la pour conclure notre causerie, si on prend la boule de cristal, c'est quoi les autres innovations dans votre secteur qui vous intéressent, qui vous chatouillent?
Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant, mais le fond commun, le déterminateur commun, c'est cette numérisation de la société. Donc on a dans le pipeline des outils dans le passé où on est passé par exemple avec le shotgun, avec le numérique, et puis maintenant c'est le temps réel, et puis il y a le blockchain qui commence à avoir un impact très fort, et puis il y a les aspects écologiques. Je pense que là pour nous essentiellement maintenant il y a le temps réel, le blockchain et l'écologie, c'est un peu les trois.
Et l'écologie, c'est notamment effectivement mesurer votre impact, parce que tout ça, c'est de la ressource, c'est de la machine.
L'impact carbone, le stockage, il y a des énormes problématiques de stockage, des data centers, et puis pour le GPU aussi. Quand on fait du temps réel, ça consomme d'électricité avec le calcul, avec les GPU. Donc, il y a pas mal de nouvelles techniques dans le gaming qui nous permet de, au lieu de survolter et surcadencer les performances, ben on peut sous-volter pour faire des économies aussi.
Le résultat de notre causerie, on pourra le voir quand ? Gigantosaurus, c'est quand le...
Alors, a priori, c'est mise en ligne à l'été. Voilà. Là, on vient de sortir aujourd'hui même le pilote, le premier épisode. On reprend les tournages début mai. On s'est accordé une pause de 4 semaines post-pilote pour faire une sorte de post-mortem sur tout le processus, parce que c'était assez, c'était une aventure. Il a fallu vraiment avancer. J'aime bien utiliser cette image ou coupe-coupe dans la jungle, c'est-à-dire à chaque étape de fabrication, il a fallu apprendre et découvrir. Donc ça, maintenant, on sait faire. On allait jusqu'au bout. Et on a 4 semaines pour faire un post-mortem, industrialiser les choses et partir en production lourde, disons, cette fois-ci, à partir de début mai, avec tout un tas de tournages et d'épisodes à produire. Et on finalise aussi le recrutement là au mois d'avril pour être absolument prêt début mai à produire donc 52 épisodes de 11 minutes en 8 à 9 mois. Voilà, donc c'est rapide, très rapide.
Olivier, Andreas, merci beaucoup pour cette discussion.
Merci à vous.
Merci.
Et à très vite.